Nous avons suivi ensemble la lecture du livret dit de l'Emmanuel, dans lequel il y a cette répétition assez constante que le reste fidèle qui s'attache à Dieu et qui s'attache au Messie, petit M, S, que Dieu envoie, c'est le reste fidèle qui sera sauvé, qui sera arraché du jugement, passé à travers un feu. Ainsi, vous comprenez, nous avons lu ensemble comment le prophète, ce n'est pas simplement qu'il voit des personnes précises à des instants précis. Il voit plutôt le type de personne nécessaire pour que Dieu puisse accomplir son plan. Il voit un visage, il voit un type de roi. Ainsi, quelqu'un posait la question à midi, je crois que ça vaut la peine de le redire avant d'enchaîner avec la suite. C'est pas simplement que Ésaïe nous aide à imaginer que Jésus va venir, chose que nous savons déjà en tant que chrétiens, mais quel genre de sauveur Dieu veut donner et Dieu donne régulièrement à Israël. Ainsi, ces images utilisées par le prophète vont nous être très utiles. Une souche, un rameau, pardon, qui sort d'une souche, c'est-à-dire du vivant qui sort de quelque chose qui paraît mort. Une lumière dans les ténèbres, visible par tous ceux qui sont pauvres et abattus. Un bout de bois érigé en étendard pour le salut des nations. Bon, Ésaïe, je pense, n'aurait jamais pu imaginer les choses extraordinaires que Dieu tirerait de ses prophéties. Hein, quand Jésus vient, c'est une bombe atomique, hein. Personne ne s'attend à ce que Dieu accomplisse ses promesses de cette manière. Alors comment pouvons-nous dire que ces choses concernent Jésus? Eh bien, tout simplement parce que Matthieu n'est pas, j'en sais rien, je ne le connais pas, mais il n'est pas forcément en train d'écrire ces choses parce qu'il est plus intelligent que nous, mais parce que le Christ lui-même lui a annoncé ces choses. Le rejeton, le fils de David, celui qui dit « Je suis la lumière du monde ». Que signifie cette expression « Je suis la lumière du monde » Eh bien, c'est une réponse à Ésaïe, chapitre 9. Ce monde, le monde juif qui est dans les ténèbres, Jésus vient et il est cette lumière. Voilà pourquoi Matthieu ose nous dire que ce texte d'Ésaïe préparait la venue du Christ. C'est Jésus qui le lui a annoncé. Toutes les personnes que Dieu utilisera dans son plan, et il y a des personnes extraordinaires dans l'histoire d'Israël. Les Ézéchias, ce roi, je fais une petite parenthèse parce que je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça. Ézéchias, c'est ce roi qui, quand Sennachérib, en 701 avant Jésus-Christ, vient avec les armées assyriennes pour faire le siège de la ville, on a mentionné cet événement, il prend le sac et la cendre. Il écoute le prophète Ésaïe. Mais surtout, il réussit à faire en sorte que le peuple se repente avec lui, le peuple qui est à la dernière extrémité. Il fallait que les faubourgs de Jérusalem soient envahis avant que le peuple de Dieu, qui aurait dû savoir mieux, se tourne vers lui. Mais Dieu entend, parce qu'il n'est jamais trop tard pour la repentance, même quand le jugement est déjà passé. Ézéchias, le bon roi, entre guillemets. Zorobabel, qui est un descendant de David, qui ramènera les exilés de Babylone. Ce sera lui qui peut-être franchira le fleuve de l'Euphrate, un peu comme les Israélites franchissent la mer Rouge dans l'Exode, dans le Pentateuque. Toutes les personnes que Dieu choisit de la descendance de David sont extraordinaires. Quand ils disent à Dieu, me voici, utilise-moi. Cela dit, ils n'accomplissent pas pleinement le dessein de Dieu. Le roi Ézéchias ne pourra pas, à lui tout seul, faire changer de direction Israël à long terme. Lui-même commettra une faute qui peut nous paraître anecdotique, en fait, moralement parlant, mais aux yeux du prophète, il y a un signe très fort. Une fois que les armées assyriennes sont détruites. Pendant la nuit, il y a un ange qui intervient. C'est pas une petite chose, d'accord? C'est un miracle, pour une fois, visible et grandiose de la part de Dieu. Sennacherib repart chez lui, il a des problèmes de politique interne. Et qu'est-ce qui se passe? Tout joyeux d'avoir échappé à ce jugement, eh bien, il invite des gens d'autres pays pour voir les richesses du temple et de son royaume. Et c'est là où Dieu envoie Ésaïe dire à Ézéchias, eh bien, puisque ces ambassadeurs de Babylone ont vu ces trésors, sache que c'est dans leur pays que ces trésors finiront. Puis il dit, mais ce ne sera pas de ton vivant, ce sera du temps de tes descendants. Et il dit, ouf, c'est pas de mon temps, ça va. Bon, on ne va pas faire de commentaires, parce que ces histoires ne sont pas là pour nous donner un aperçu moral de ce qui se passe dans son cœur. C'est surtout pour nous montrer, dans un certain sens, c'est une parole positive dans la bouche d'Ésaïe. D'accord ? Il dit, il comprend que Dieu est en train de lui dire, je donne à Israël du temps. Donc pour lui, c'est une parole positive, même si le jugement semble quand même certain. Vous voyez la différence entre lui et son père? On lui donne une mauvaise nouvelle et il la prend comme argent comptant. Il dit, si Dieu a dit, c'est ça qui va arriver. Mais on a encore aujourd'hui. Alors qu'Akaz, on lui propose un salut qu'il refuse. Toutes ces personnes ne suffisent pas. Ézéchias n'est pas et ne sera jamais le Messie. Zorobabel, il ramène le peuple d'exil, il est roi de rien du tout. D'accord ? Il n'a aucune couronne, il n'a aucun trône. En fait, il n'est même pas gouverneur. Il n'est pas grand-chose. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire d'Israël, ces attentes messianiques que Ésaïe a vues dans l'Israël fidèle qui se repent, le fils de David qui revient à Dieu, ces attentes sont à la fois réelles et elles se sont accomplies. Et en même temps, eh bien, pas exactement comme avant. Le retour de l'exil, c'est pas aussi extraordinaire que les 10 plaies d'Égypte, le passage de la mer Rouge et la manne dans le désert. Les gens viennent, prennent leurs affaires et rentrent à Jérusalem. Alors pour nous, de notre point de vue, c'est extraordinaire. Un roi qui libère de la main-d'œuvre sans qu'il ait besoin d'envoyer des plaies d'Égypte. Mais quand même, Israël se dit, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'était mieux avant? Où est-ce que Dieu va aller jusqu'au bout de sa promesse? Et les vrais fils d'Israël savent que la réponse est encore à venir. Ainsi, même si Ésaïe ne parle pas du Messie, ces prophéties de l'action de Dieu dans l'histoire d'Ésaïe suscitent presque obligatoirement une attente messianique qui devient de plus en plus grande et plus en plus forte au fil du temps. Et c'est là où nous nous trouvons. On va devoir sauter toute une partie d'Ésaïe, je suis le premier attristé. Mais dans la première partie, l'Assyrie était l'instrument de Dieu pour juger Israël, certes, qu'il avait bien mérité, même au dire des Judéens, mais aussi pour juger la famille de David, jugement dont ils sortiront, disons, au moins à moitié vainqueurs. Mais, comme vous voyez, au verset 39, le roi apprend que ce salut n'est que de courte durée. D'accord ? C'est partie remise. Et si les Assyriens seront punis par Dieu pour leurs méfaits, Dieu sifflera un autre chien qui est celui de Babylone. Et le nom de leur royaume est révélé, alors qu'à cette époque, Babylone n'est pas une grande puissance mondiale, pas encore. Et donc, des yeux fixés sur Ninive et Assur, nos yeux se portent encore un tout petit peu plus à l'est, vers Babylone. Et cette fois-ci, Ésaïe lui-même va commencer à parler de manière plus active, plus profonde, de ce qui attend Juda, pas ici et maintenant, mais un peu plus loin sur la route. Il prend comme fait presque déjà accompli, parce qu'il voit ce qui est inéluctable, c'est ce jugement d'Israël qui doit passer par l'exil. L'exil, c'était une condition de l'alliance. C'était la dernière carte de Dieu. Il dit, si vraiment je n'arrive pas à vous rappeler par les prophètes, il faudra passer par l'exil. C'est une manière de dire, et Ésaïe ne l'invente pas, hein, on a vu dès le chapitre 6, Dieu lui avait dit que ça arriverait, c'est une manière de dire, je sais que même cette repentance n'est que de courte durée. Et le jugement va quand même venir. Mais fidèle à son ministère et fidèle à la parole de Dieu, il continue à appeler Judas, à la repentance, tout le temps. Un vrai prophète ne cesse jamais de le faire. Il faut le tuer pour qu'il arrête d'appeler à la repentance. Et il le fait. Et donc ainsi, même les oracles de malheur, qu'est-ce qu'ils signifient? Quand Dieu dit « malheur sur Jérusalem », qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? On l'a vu au début. Non pas « je ne t'aime pas », mais « regarde le malheur dans lequel tu es en train de t'enfoncer ». Ce sont des paroles d'amour, même si ce sont des paroles extrêmement difficiles à entendre. Et Dieu va même faire ressortir chez les prophètes la douleur, alors c'est un terme humain, donc je l'emploie peut-être avec des guillemets, la douleur qu'il a à ne pas être écouté et aimé par un peuple à qui il n'a fait que du bien. Un choix qu'il a mis en place pour nous, je crois. Parce que c'est ça que Dieu fait. Dieu fait ça à la race humaine. Il lui fait du bien. En échange, nous lui rendons la rébellion. Alors, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que nous allons donc sauter certains de ces chapitres. Une fois que nous avons compris les deux premiers livrets, vous pouvez appliquer cette manière de lire à chaque livret. Et normalement, on ne devrait pas avoir de grandes difficultés à la lecture. Après le petit intermède historique de son amitié avec Ézéchias, Ésaïe change son fusil d'épaule. Et même, on va dire, le style littéraire des prophéties d'Ésaïe change radicalement. Regardez le premier mot de cette deuxième grande partie du livre d'Ésaïe, ou si vous préférez, le sixième livret. Réconfortez, oui, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Alors, le changement de ton est si fort qu'il y a même des gens qui ont dit « Ah, c'est pas possible, ça ne peut pas être Ésaïe qui écrit ces paroles. » Parce que d'habitude, Ésaïe dit « malheur ». Et oui, dans la première partie de son livre, il décrit comment le jugement va venir, parce que la direction de Judas est mauvaise, dans les deux sens du terme « direction », n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu ne juge jamais simplement pour le plaisir de juger Israël. Il juge Israël pour le ramener dans le droit chemin. Et donc, ce réconfort, c'est une anticipation de la part du prophète du salut que Dieu donnera après un jugement qui n'est pas encore arrivé. Ça va, vous êtes avec moi? Il anticipe un salut dont on n'a pas encore besoin parce qu'on n'a pas encore été jugé. Mais le jugement est si certain et le salut de Dieu, le réconfort de Dieu est si certain qu'il peut l'annoncer à l'avance. Ça, c'est extraordinaire. Voilà la confiance qu'il a dans le dessein de Dieu. Il sait que les choses vont vers leur accomplissement positif. Ça, c'est un grand signe de foi. Bon, bien sûr, c'est le message que Dieu lui donne. Alors, je sais que vous pensez chaque fois au fond de votre esprit, oui, mais Dieu lui a dit de dire ça. C'est vrai. Mais il le dit et il n'en a pas honte. Et donc, Dieu va lui dire, il faut que tu réconfortes par avance mon peuple. Pour quelle raison? Réfléchissons ensemble. Est-ce que vous faites ça avec vos enfants? Bon, je vais te punir, mais déjà, je vais te réconforter à l'avance. Ça enlève le but de la punition, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Vous avez une idée? Quand ça arrive, il ne soit pas découragé. C'est une bonne réponse, je répète pour le... Qui doit être réconforté? Qui va pleurer? Le peuple tout entier, j'ai entendu. Le reste fidèle? Oui. Vous vous souvenez? Quand Dieu regarde Israël, il voit deux choses. Il voit la nation d'Israël, dans la chair, avec sa direction. Et il voit ce que Paul appelle l'Israël de Dieu, peut-être. Il voit le reste fidèle des gens qui l'aiment, malgré les décisions des dirigeants ou ce que pense la majorité des gens. Il les voit. C'est eux qui sont visés particulièrement par ces paroles. Il faut qu'ils soient réconfortés pour que le jugement ne vienne pas leur enlever la foi que Dieu est en train de mener Israël, que Dieu est vraiment le roi d'Israël. Parce que théoriquement, c'est facile à comprendre, n'est-ce pas? Mais si vous payez avec les coupables, ça devient plus difficile. Alors, voici ce qu'il va dire. On va lire beaucoup. On ne peut pas lire, évidemment, les chapitres qui nous restent. Mais Ésaïe est extraordinaire en ce sens que d'habitude, si vous ouvrez un prophète, d'accord, vous avez 14 chapitres de malédiction, de dénonciation du péché, d'appel à la repentance de Dieu qui se lamente sur l'infidélité d'Israël. Et à la fin, il y a 4 versets qui disent « Mais bon, Dieu ramènera les enfants dispersés et il sauvera le peuple. » Mais souvent, la vision, disons, béatifique, la vision d'avenir positive, elle est toujours présente, hein, c'est obligatoire. Hein, les prophètes en parlent toujours, mais elle est souvent relativement petite parce que ces événements sont trop loin. Ésaïe va jouer le jeu de se transporter dans le futur et il imagine quoi ? Qu'il y a une partie qui a un reste fidèle. Voilà en quoi, bon, bien sûr, il a la foi en Dieu, mais il a foi aussi qu'il y aura un reste fidèle en Israël. Et ça nous éclaire un tout petit peu sur ce qu'on a vu au chapitre 6. C'est Dieu qui lui avait dit, n'est-ce pas ? Même le reste fidèle passera par le feu comme un arbre qu'on coupe, n'est-ce pas ? Mais il y croit. Souvenez-vous du prophète, c'est Élie, n'est-ce pas, qui pense qu'il est tout seul en Israël à adorer Dieu. On a souvent une vision assez, disons, image d'Épinal, hein, d'Israël. Donc Israël est religieusement monothéiste et fidèle à Dieu, sauf de temps en temps. Mais c'est le contraire. D'accord, la plupart d'Israël ne sert pas Dieu, sauf peut-être de manière extérieure, n'est-ce pas. C'est très rare le moment où Israël suit Dieu de tout son cœur. Hein, on a trouvé des temples païens à proximité de Jérusalem qui datent de l'époque du roi Salomon. Donc on sait très bien que l'idolâtrie, ce n'est pas un problème qui arrive vers la fin de l'histoire d'Israël. C'est constant en Israël. Mais il y a toujours en Israël ceux qui aiment Dieu. Et Dieu est obligé de dire à son prophète, mais tu n'es pas tout seul. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Eh bien, Ésaïe découvre cette même réalité et il y croit. Il y croit dur comme fer et il veut les réconforter par avance, sachant qu'il ne verra pas ce reste fidèle. Mais il leur écrit ce livre. Voilà pourquoi il écrit ces paroles. Elles sont à venir. Ça prend, à mon sens, pour le prophète, c'est un pas de foi extraordinaire. Alors regardons, lisons ensemble ce texte qui est l'ouverture, c'est la grande ouverture de ces 3 grands livrets de promesses, de bénédictions. Ésaïe chapitre 40, je lirai jusqu'au verset 8. Réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine, car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier, dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Que le niveau des vallées soit relevé, que les montagnes et les collines soient abaissées, que les reliefs soient changés en plaine et les hauteurs en larges vallées. La gloire du Seigneur va être dévoilée et tout le monde verra que la bouche du Seigneur a parlé. J'entends une voix qui dit « Fais une proclamation ». Je répondis « Laquelle ?» La voix reprend celle-ci. Le sort des humains ressemble à celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, le peuple a la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Est-ce que vous reconnaissez l'événement qui est envisagé par le prophète ? Dans le désert, un chemin doit être ouvert, les montagnes vont s'enlever, les vallées vont se relever, la gloire du Seigneur va être dévoilée, et tout le monde verra que la bouche du Seigneur a parlé. À quel événement fait-il référence ? Un autre exode ? J'ai compris. Jean-Baptiste, d'accord ? On va parler de Jean-Baptiste dans quelques secondes. Mais dans la bouche d'Ésaïe, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous souvenez ? L'exil va arriver, mais le peuple va revenir. L'idée de l'exode est très très présente chez Ésaïe. Et qu'est-ce que Dieu va faire pour ça ? Il va aplanir les chemins. On a vu tout à l'heure, l'Euphrate va s'ouvrir 7 portes. Hein, il y a 7 canaux comme ça. Il n'y aura plus qu'à passer. À pied sec, l'Euphrate. Pareil ici. Bon, physiquement, Dieu ne va pas forcément faire ce genre de miracle pour le retour des exilés. Ce qu'il est en train de dire, c'est quand ça arrive, vous saurez que Dieu avait dit que ça arriverait. Pas une prédiction, c'est une certitude. Vous voyez la différence ? C'est une certitude parce que Dieu ne peut pas renier sa parole. Alors, c'est quoi cette proclamation? On la connaît, on la chante parfois, hein, sur le fait que notre vie est courte, n'est-ce pas? L'herbe qui sèche et qui se fane. Le peuple est comme ça, il se fane. Mais quoi? La parole de Dieu est pour toujours. Quelle parole? Celle-là? Peut-être, oui. Toutes les paroles de Dieu. Mais, ouais, on peut même remonter. Quand Dieu a parlé à Abraham, quand Dieu a parlé à Adam, quand Dieu a dit, je vais aller au bout de mon dessein. À chaque fois, à chaque homme, à chaque femme à qui il a parlé, c'est la même chose qu'il a dite. Et donc, vous pouvez vous confier en ça. Le peuple, lui, il passera. Les générations passent, mais pas la parole de Dieu. Alors, quelqu'un a mentionné Jean-Baptiste. Évidemment, vous savez bien que si le titre, c'est le Messie et Ésaïe, si je vous cite ce chapitre 40, c'est qu'il nous est intéressant. En Marc, chapitre 1, est-ce que je peux me permettre de faire une parenthèse? Oui, il n'y a que moi qui ai le micro, donc je peux répondre à ma question. De tous les évangélistes, j'ai relu un tout petit peu et ça m'a frappé. De tous les évangélistes, Marc, c'est celui qui table le plus sur cette question de l'Exode. Vraiment, c'est impressionnant. On dirait qu'il prend les schémas de l'Exode et il les relie dans la vie de Jésus. Et à mon avis, il ne fait pas ça par hasard. Parce qu'on va voir que c'est ce que Jésus lui-même enseigne. Donc, l'Exode, Ésaïe, Marc, il y a une chaîne là, hein, qu'on pourrait suivre, on pourrait s'amuser à faire ça si on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Marc, chapitre 1, et il commence avec ça, Ésaïe. Ainsi qu'il est écrit, donc il dit Évangile de Jésus-Christ, ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Et vous savez, par la lecture constante de l'Évangile, qu'il s'agit bel et bien de Jean-Baptiste, qui va venir préparer le ministère de Jésus. En fait, ils vont travailler main dans la main pendant plusieurs années. Vous avez l'équivalent en Luc chapitre 4, je vous le lis parce que ça vaut le déplacement. « En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste. » c'est juste après le récit de la naissance de Jésus et le début de son ministère. Il proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » C'est lui, comme ça c'est clair, c'est lui, Jean-Baptiste, dont avait parlé le prophète Ésaïe quand il disait, « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors, pourquoi est-ce que c'est marrant? Parce que contrairement à ce que dit l'hébreu, les évangélistes jouent un peu avec le texte. Ça, c'est un truc qui nous dérange parfois en tant que chrétien. Les auteurs du Nouveau Testament, les apôtres, ils n'hésitent pas à prendre un texte et le transformer un tout petit peu. Et nous, comme on est très moderne et qu'on aime une citation qui commence avec des guillemets, qui finit avec des guillemets, et en bas une note de bas de page avec toutes les références, on est un peu gêné par ça. On a l'impression qu'ils trichent, en fait. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont en train de révéler les clins d'œil que Dieu a placés dans l'histoire d'Israël et qui préparent le ministère de Jésus. Le changement qu'ils font ici, c'est tout simple. C'est dans le désert. En fait, ce que Ésaïe dit, c'est une voix crie, deux points. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Parce que Dieu est en train de dire, je vais ouvrir le désert, je vais faire passer mon peuple, hein, comme la première fois. Eux, ils lisent, ils regardent le ministère de Jean-Baptiste et ils disent, ah oui, Dieu a dit, une voix qui crie dans le désert. Parce que où est-ce que Jean-Baptiste baptise? Dans le désert, n'est-ce pas? Dans le désert de Judée, c'est pas le Sahara, d'accord? Mais il est dans des endroits déserts. Et l'évangéliste se dit, non pas Ésaïe avait prédit que Jean-Baptiste viendrait prêcher dans le désert, mais il dit, c'est intéressant, cet homme prêche dans le désert, non pas pour revenir d'exil ou quoi que ce soit, mais simplement parce que c'est le dernier endroit où on peut entendre la parole de Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Quand Israël revient d'exil, où est Dieu? D'après Ésaïe. Ah, mince. Non, ça c'est autre chose. Non, je veux dire ici, en Ésaïe 40, on se projette dans l'avenir, Dieu va ramener d'exil son peuple qui a été jugé. Où est Dieu? Dieu, il est là, à Jérusalem, et puis, venez, c'est ça? Non, Dieu est parti avec eux, en exil, et c'est lui qui ouvre la route. En fait, quand Dieu revient d'exil, entre guillemets, il dit « suivez-moi » à tous ceux qui le veulent, et un reste fidèle vient et le suivra. Avec cette différence que ceux qui restent, eux aussi, ils financent, eux aussi, ils font partie de ce reste fidèle, même s'ils ne viennent pas tout de suite. Okay? Dieu vient. Dieu vient, parce que dans la Bible, Dieu vient souvent de l'Est, mais il vient de l'Est avec son peuple. Il le tient par la main. Vous vous souvenez de ce que Dieu dit à Israël dans le Pentateuque ? Oui. 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 Il le précède, il le suit, il le prend par la main, comme un père qui apprend à marcher à son fils. Ça, c'est les prophètes qui nous disent ça. Dieu est avec lui. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous cite Ésaïe ? Vraiment, c'est juste la question que il y a quelqu'un dans le désert qui dit il faut préparer un chemin. Je crois que Marc est en train de dire quelque chose de beaucoup plus fort, et Luc aussi. Dieu vient. Le jour du Seigneur, c'est bientôt, n'est-ce pas ? N'est-ce pas exactement le message de Jésus ? Convertissez-vous, réjouissez-vous. Pourquoi ? Le royaume est proche. Le jour vient. C'est la même chose, hein, c'est de manière différente de le dire. Dieu arrive. Dieu va faire quelque chose. Vous attendez depuis si longtemps. Ça y est, c'est maintenant. D'accord ? Et Jean-Baptiste est un signe que le temps est proche. Ça se passe dans le désert, clin d'œil, clin d'œil. Alors, c'est vraiment extraordinaire parce que Ésaïe fait quelque chose. On appelle souvent Ésaïe l'évangile de l'Ancien Testament. Bon, si vous voulez. Mais pour quelle raison ? Parce qu'il a ce terme qui ne cesse de frapper les chrétiens. Il donne de la part de Dieu une bonne nouvelle. C'est le mot évangile, n'est-ce pas ? 4 fois dans Ésaïe. Dieu lui dit, proclame une bonne nouvelle. À partir du chapitre 40, évidemment. Le message que tu as passé maintenant, c'est un message positif. Ben, vous connaissez celui-là au moins. Qui sont beaux sur les montagnes, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle. De celui, pardon, qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu est roi. Ça, ce n'est pas les prédicateurs, hein, ça c'est Jésus. Hein. Celui qui porte la bonne nouvelle, c'est lui qui dit, c'est Dieu le roi. Même si vous avez du mal à le croire d'après les apparences. Est-ce qu'on commence à entrevoir le ministère prophétique de Jésus ? Oui, il a annoncé la fin de Jérusalem, d'accord. Mais c'est quoi le vrai ministère prophétique de Jésus ? Il faut que vous ouvriez les yeux. Il faut que celui qui a des oreilles entende. Il faut que vous laissiez les pensées de Dieu vaincre les vôtres. À défaut de cela, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. C'est exactement ce que dit Ésaïe. Voilà, j'ai mis l'autre, c'est un autre qui est très connu. Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, c'est Ésaïe qui parle. Hein, okay ? Car le Seigneur a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle, un évangile aux pauvres. Pensez ceux qui ont le cœur brisé, proclamez aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Alors, maintenant qu'on comprend la façon de parler du prophète, on comprend ce qu'il est en train de dire. Le souffle du Seigneur Dieu, c'est quoi ? C'est Dieu qui parle. Hein, le souffle, c'est la parole. Dieu a fait de lui un Messie. Ah oui ? À quel moment ? Il a dit, qui enverrai-je ? J'ai dit, moi. Il a dit, d'accord, c'est toi. Un Messie, c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres ? Ceux qui étaient opprimés par les grands de Juda, mais qui maintenant en sont délivrés par le jugement de Jérusalem. C'est complexe, mais c'est comme ça que Dieu y arrive. Il faut que j'avance. Pensez ceux qui ont le cœur brisé. Ils ont le cœur brisé de quoi ? Ils ont le cœur brisé de regarder ce qui arrive à Israël ? Vous n'avez pas le cœur brisé de regarder ce qui arrive à l'Église parfois ? Moi, j'ai le cœur brisé. Proclamez aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Ils sont libérés de quoi ? Bon, ça sera le reste de l'Évangile. Mais vous voyez, Ésaïe est en train de dire, il me dit de vous donner ce message. Pas très compliqué. Alors, ces 3 livrets de consolation, il y en a 3. Bon, c'est artificiel à nouveau, mais c'est pour vous aider à la lecture. Courage. Les voici. Je vous en propose 3. Il y a d'autres découpages. Je ne vous apprends rien. Le premier, c'est les chapitres. C'est chaque fois 9 chapitres. Moi, ça m'aide un peu mnémotechnique. Le premier, c'est les chapitres 40 à 49. Face à la triple tentation de l'idolâtrie, du découragement et de la tentation, la grandeur du Dieu Tout-Puissant. Alors, dans cette partie, Ésaïe réconforte le peuple et en même temps l'avertit sévèrement contre toute forme d'idolâtrie après le jugement. D'accord ? Un peu comme si Ésaïe disait « Attention, les péchés de nos pères, ce n'est pas parce qu'ils ont été jugés que nous en sommes pour autant parfaitement débarrassés, que nous n'avons pas à nous en faire. Et donc, il y a un appel à la repentance qui... Vous lisez le texte, oui, il parle de repentance et de consolation en même temps. Ben, c'est ça. Dans la consolation, le peuple doit toujours entendre « Mais c'est parce que vous avez changé votre façon de penser. C'est pour ça que vous êtes consolé. » Donc, s'il vous plaît, ne retombez pas en cela. Dieu est présenté aussi comme le Dieu tout-puissant. Si vous lisez le chapitre 40 d'Ésaïe, on ne peut pas le faire, mais c'est extraordinaire. Une description du Dieu qui a tout créé. Qui peut comparaître contre Dieu et lui dire ce qu'il doit faire? Mais personne. Sous-entendu qui? Sous-entendu tous les grands de ce monde qui nous ont écrasés sous la meule. Mais Dieu est beaucoup plus puissant que ça. Si votre confiance est en Dieu, vous n'avez pas besoin de mettre votre confiance dans autre chose. L'idolâtrie, c'est la confiance dans les forces des autres peuples. Le découragement, c'est la confiance dans la force d'Israël qui mène au découragement. Et la tentation, je n'ai pas besoin de vous en parler. Le deuxième livret, c'est celui qu'on étudiera peut-être plus en profondeur. Dieu ouvre son salut à son peuple et aux nations. Ah, tiens, ce qu'on a vu au début d'Ésaïe va revenir sur le tapis. En sauvant Israël, le reste fidèle d'Israël, Dieu prépare la route pour le salut des nations. Pas une surprise, parce qu'Abraham le savait en Genèse chapitre 12, mais c'est bon de le rappeler à ce moment-là, dans le découragement. Et particulièrement à travers l'œuvre d'une personne que Dieu va nommer son serviteur. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Et puis le troisième, chapitre 58 à 66, la justice de Dieu sera la marque d'un peuple de serviteurs renouvelé par la présence de son esprit. Comme si Dieu disait, je vais renouveler l'alliance et je vais vous donner un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Quand Dieu dit ces choses, hein, il parle à la génération qui est en face de lui. Même si nous, honnêtement, ben, par Jésus, nous avons reçu un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Je ne renie pas tout ce que j'ai jamais prêché au micro, mais je le dis, quand le prophète le dit, c'est pour que les gens qui le lisent, ses premiers destinataires, puissent en être certains. Alors, ce sont des passages sur lesquels on a envie de prêcher, d'accord ? Parce qu'ils sont positifs, et malheureusement, peut-être on préfère prêcher ce qui est positif. Mais c'est aussi positif pour ceux qui sont dans la douleur. Ce n'est pas « je vais bien, tout va bien », c'est « j'ai mal et Dieu va m'apporter la consolation ». Alors, à qui s'adresse-t-il ? J'ai posé la question, vous m'avez répondu. Maintenant, on va le vérifier dans le texte. La personne à qui ces livrets, les personnes à qui ces livrets sont adressés, eh bien, vont prendre un titre, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le titre de serviteur, ça se comprend. Pourquoi ? Parce que le serviteur, c'est celui qui obéit à la voix de son maître. D'accord ? D'autres prophètes parleront de fils. Le fils, c'est qui ? Le fils, c'est celui qui obéit à la volonté de son père. Jésus nous l'a dit et redit, on n'est pas fils simplement de celui qui nous a fait dans la chair, qui a créé notre corps, mais celui à qui on obéit. Ainsi, les pharisiens sont fils de Satan. Alors que certainement, Satan n'a jamais eu des bébés. Et en même temps, être fils de Dieu, c'est quelque chose de très précis aussi. Bon, revenons à notre mouton. Notre mouton, c'est Israël, mon serviteur. Comme si le jugement avait fait passer Israël de Israël, le rebelle, à Israël, le serviteur. Il y a eu un écrémage, d'accord ? Il y a eu un renouveau du peuple. C'est le même Israël, mais il a changé d'attitude. Voici, en Ésaïe chapitre 41, la première mention de ce fameux serviteur. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, toi que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami, toi que j'ai tenu depuis les extrémités de la terre, toi que depuis ses limites j'ai appelé, ça c'est le retour d'exil, hein. Toi à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne crains pas car je suis avec toi, n'aie pas ce regard anxieux car je suis ton Dieu. Je te rends robuste, oui, je t'aide, oui, je te soutiens par ma droite qui fait justice. Vous sentez les paroles d'encouragement de Dieu ? La punition que je t'ai fait subir, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je t'aime. Je t'ai choisi. Quand ? Il y a bien longtemps, quand j'ai choisi Abraham. Je ne t'ai pas rejeté. Les apparences donnent cette impression, mais ce n'est pas vrai. C'est le contraire. Ne sois pas anxieux. Mon plan continue. Et donc, Israël gagne le titre de serviteur. Magnifique. Magnifique, ça. Pourquoi ? Parce que Ésaïe ne peut pas s'empêcher de rappeler quelque chose. C'est Dieu. Au chapitre 42, il dit d'Israël, « Qui était aveugle, sinon mon serviteur ? Qui était sourd comme mon messager que je vais envoyer ? Qui était aveugle comme le réhabilité ? Qui était sourd comme le serviteur du Seigneur ?» Ben, la réponse, c'est Israël. Israël était sourd. Israël était muet quand il fallait parler, était aveugle, il ne voyait pas le chemin de Dieu. Donc, la réhabilitation de ce terme envers Israël, ça c'est une très très bonne nouvelle. J'ai mis Ésaïe 44 aussi, parce que c'est la dernière citation. « Écoute, Jacob, mon serviteur Israël que j'ai choisi, ainsi parle le Seigneur qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein maternel et qui t'aide, ne crains pas mon serviteur Jacob, le redressé, celui que j'ai choisi. » Le redressé, vous comprenez l'image, hein, comme un arbre qui aurait été abattu, mais Dieu le remet en terre, plouf, il le redresse et c'est reparti. Il a choisi depuis le ventre maternel, Dieu ? Eh oui, vous ne vous souvenez pas ? Vous ne vous souvenez pas ? Il y avait deux jumeaux qui se battaient dans le ventre, d'accord ? C'est Jacob. C'est une longue histoire, donc je ne peux pas la raconter, il faut la lire en Genèse. Mais Dieu a choisi Jacob à la place d'Ésaü. Si vous ne me croyez pas, il faut lire le Nouveau Testament. Alors, une autre chose qu'il va dire, et c'est peut-être le fait de se rendre compte de l'usage de ces termes va nous déstresser un tout petit peu. Okay ? Dieu parle de serviteurs, de personnes qui n'ont pas encore servi. D'accord ? Et puis, au chapitre 41, il va faire autre chose. Justin l'a mentionné tout à l'heure, quand il parle de Cyrus, c'est que Dieu va parler d'un homme qui n'est pas encore né à l'époque où Ésaïe écrit. C'est l'empereur Cyrus. C'est Cyrus qui, entre autres, permettra aux exilés de Juda de revenir dans la terre promise, hein, à Jérusalem. D'accord ? Et voici comment Dieu en parle. Ça m'a interpellé. Ésaïe 41. Du nord, le nord c'est la Mésopotamie, hein, en règle générale. Du nord, j'ai fait surgir un homme, et il est venu. J'ai appelé, il est venu. Depuis le soleil levant, il s'entend appeler par son nom. Il piétine les gouverneurs comme de la boue, comme le potier talonne la glaise. On apprendra par la suite que c'est Cyrus. Mais vous avez vu ce que Dieu fait ? Il dit, c'est moi qui l'ai appelé. Quand il arrivera, vous saurez que ce n'est pas un hasard. Parce que c'est moi le roi des nations. Ainsi parle le Seigneur à son Messie. Et par Messie, il faut entendre l'homme qui est décrit juste avant, n'est-ce pas ? À Cyrus, on nous donne son nom, que je tiens par sa main droite, pour abaisser devant lui les nations. Moi-même, devant toi, je marcherai, les terrains bosselés, je les aplanirai, les bâtons de bronze, je les briserai, les verrous de fer, je les fracasserai. Je te ferai l'autoroute, hein, devant toi. Je te donnerai les trésors déposés dans les ténèbres, etc. Tu sauras que c'est moi le Seigneur, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et à cause de mon serviteur Jacob, oui, d'Israël, mon élu, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai qualifié sans que tu me connaisses. C'est moi qui suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre, moi excepté. Nul n'est Dieu. Dieu dit, son Messie, c'est Cyrus, celui qu'il a choisi pour mener son dessein à bien, n'est-ce pas ? Et pour quelle raison ? Pourquoi est-ce qu'il donne tant d'importance à cet homme Cyrus ? Parce que j'avais choisi Israël avant. Je t'ai appelé par ton nom, Cyrus. C'est moi qui te donne ton nom, c'est-à-dire ton autorité sur la terre, parce que j'avais déjà posé mon nom sur Israël. Toi, tu ne me connais pas, et je t'ai qualifié. Eux, ils me connaissent maintenant. En d'autres termes, Cyrus, le Messie de Dieu, est au service du serviteur de Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, moi, je trouve. N'oubliez pas, j'en profite simplement pour faire cela, n'oubliez pas que, j'imagine que vous le savez à la lecture de la Bible, l'idée du Messie ne s'écrit pas toujours avec un grand M. Dieu a appelé beaucoup de gens, il a mis à part beaucoup de personnes pour accomplir son plan. Voilà même un étranger, un Mésopotamien, pour y arriver. Ce sont les Perses, hein, pour ceux qui se demandent. Mais des Perses. Alors, ouf. Au plein milieu de cette, je sais pas, ce cri d'espoir de la part d'Ésaïe et cette réaffirmation de la part de Dieu que tout est sur le bon chemin, nous avons quatre joyaux extraordinaires. Et ces joyaux ont souvent été surnommés, vous avez peut-être même lu beaucoup à ce sujet, c'est les chants du serviteur. Tout simplement parce qu'au plein milieu de ces textes qui parlent d'Israël comme serviteur, un passage plus poétique qu'un autre, vraiment ça ressemble à des cantiques, et le sujet, littéralement le sujet de ce psaume, on parle au serviteur, d'accord ? Ils vont nous décrire un peu plus ce serviteur. Et donc, on va les lire ensemble. Bien sûr, ils sont entourés de contextes. Ce serait bien de prendre le temps. Mais je vous ai donné un contexte global. Il va falloir s'en contenter jusqu'à ce que ce soir, ou demain, ou après-demain, vous soyez en train de lire Ésaïe. Vous pouvez remplir les trous par vous-même. Parce que, je vous rappelle, c'est le but. Hein. Ne partez pas d'ici en disant, c'est bon, maintenant, j'ai lu Ésaïe. On n'a rien fait. Moi, je dois rentrer et faire la même chose. Lisons-les pour la beauté du texte, mais aussi parce que petit à petit, ce visage du serviteur que Dieu se met à part, qu'il a choisi, qu'il a élu, va prendre forme. Et on va apprendre des choses. Ésaïe 42. « Voici mon serviteur que je soutiens. » C'est le verset 1, si vous êtes dans vos Bibles. « Mon élu, mon Messie, que j'ai moi-même en faveur. J'ai mis mon esprit sur lui. Pour les nations, il fera paraître le jugement. » Il ne criera pas, il n'élèvera pas le ton, il ne fera pas entendre dans la rue sa clameur. Il ne brisera pas le roseau ployé, il n'éteindra pas la mèche qui s'étiole. À coup sûr, il fera paraître le jugement. Lui ne s'étiolera pas, lui ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait imposé sur la terre le jugement, et les îles seront dans l'attente de ses directives. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui a créé les cieux et qui les a tendus, qui a étalé la terre porteuse de ses rejetons, donné respiration à la multitude qui la couvre et souffle à ceux qui la parcourent. C'est moi, le Seigneur. Je t'ai appelé selon la justice, je t'ai tenu par la main, je t'ai mis en réserve et je t'ai destiné à être l'alliance du peuple, à être la lumière des nations, à ouvrir les yeux aveuglés, à tirer du cachot le prisonnier, de la maison d'arrêt, les habitants des ténèbres. Dieu parle à un serviteur qu'il a choisi. Et quelle mission lui donne-t-il ? Bon, déjà, avant que vous répondiez à ma question, on apprend quelque chose. Il va exercer un jugement. Ce serviteur, par sa présence, va exercer un jugement sur les nations. C'est-à-dire, un jugement, il faut comprendre à la manière antique, il va devenir maître des nations. Okay ? Quelle est la mission que Dieu donne quand il appelle le serviteur ? C'est la dernière phrase. Quelqu'un peut m'aider ? Je t'ai destiné à devenir l'alliance du peuple, la lumière des nations, à ouvrir les yeux aveuglés. Vous reconnaissez la mission qui avait été donnée à Ésaïe au départ ? Hein ? C'est pratiquement, pas mot pour mot, mais presque la même chose. Et Dieu est en train de dire... Mon serviteur, je vais l'appeler à être ces choses. Comme si le peuple de Dieu, Israël, le nouveau Israël serviteur, est aussi prophète. Comme si il fait ce que jusque-là seulement Ésaïe et quelques-uns avaient le courage de faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un changement radical. L'intervention historique de Dieu a eu apporté des fruits. Ça va ? On comprend ?
Mais c'est pas tout de suite, ouais, c'est pas un moment certain.
Oui, il va falloir passer par le jugement. Mais après le jugement, quoi ? Les oreilles seront ouvertes et les yeux seront. Les yeux verront et les oreilles seront ouvertes. Il y a un changement qui va être fait. Et quoi ? Ça va porter du fruit sur le reste du monde. Parce que je vous rappelle que Dieu avait choisi Israël. Pourquoi ? Juste pour Israël ? Non. Pour le reste du monde. Donc, le plan est de nouveau sur les rails quand Israël. En tant que communauté, se plie à ce dessein. Bon, il y a beaucoup d'autres choses. Une expression que je voulais noter, c'est cette expression. « Mon élu que j'ai en ma faveur. » Ou peut-être dans vos traductions, vous avez autre chose. D'accord ? Vous vous souvenez, la vigne du bien-aimé ? Quand Dieu dit en Matthieu chapitre 3, c'est au baptême de Jésus. Voici qu'une voix venant des cieux disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir. » Il n'est pas simplement en train de dire « Ouais, je l'aime bien, lui. » Il est en train de dire « Je l'ai choisi pour accomplir une mission. » Dieu aime le Fils en lui confiant la mission la plus importante qui soit. Ça veut dire qu'il lui fait confiance. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous notez ça? Parce que les deux termes sont employés pour le serviteur, Israël, chez Ésaïe, et pour Jésus dans l'Évangile. Matthieu, si vous ne l'aviez pas compris au baptême, va le redire. Jésus se retire de là où il faisait des miracles, beaucoup le suivirent, il les guérit tous. C'est en Matthieu chapitre 12. Il leur commanda sévèrement de ne pas le faire connaître, tiens, afin que soit accompli ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Et il redit le texte qu'on a lu. Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé qui m'a plu de choisir. Et qu'est-ce que Matthieu voit en Jésus? Quelqu'un qui est discret. Et la discrétion de Jésus, pour Matthieu, est un signe que Jésus est comme le serviteur décrit par Ésaïe. D'accord? Il ne poursuit pas ses ennemis, il ne cherche pas à imposer sa puissance sur les autres, il parcourt Israël et il appelle les gens à ouvrir leurs oreilles. Et Matthieu dit « Ah oui, ça me rappelle quelque chose. » Moi, je n'aurais pas choisi ce texte pour justifier quoi que ce soit, mais Matthieu le choisit et c'est magnifique. On continue à construire. Ouf. On va peut-être devoir faire une pause au plein milieu de nos champs, mais ce n'est pas grave. Ésaïe 49, deuxième chant. Vous pouvez les noter dans vos Bibles. Hein. « Écoutez-moi, vous les îles, donc ça c'est les nations lointaines. Soyez attentifs, population du lointain. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, dès le ventre de ma mère, il s'est répété mon nom. Il a disposé ma bouche comme une épée pointue, dans l'ombre de sa main il m'a dissimulé. Il m'a disposé comme une flèche acérée, dans son carquois il m'a tenu caché. Il m'a dit, mon serviteur c'est toi Israël, toi par qui je manifesterai ma splendeur. Mais moi je disais, c'est en vain que je me suis fatigué, c'est pour du vide, pour du vent que j'ai épuisé mon énergie. En fait, mon droit m'attendait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. À présent, en effet, le Seigneur a parlé, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, afin de ramener Jacob vers lui, afin qu'Israël, pour lui, soit regroupé. Dès lors, j'ai du poids aux yeux du Seigneur et ma puissance, c'est mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur en relevant les tribus de Jacob et en ramenant les préservés d'Israël. J'étais destiné à être la lumière des nations afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. Bon, il faudrait des heures. Ouais. Je suis gêné d'aller si vite. Alors, il dit clairement, mon serviteur, c'est toi, Israël, toi par qui je manifesterai ma splendeur. D'accord ? Celui qui a été appelé dès le sein de sa mère et à qui Dieu a confié une mission, c'est Israël. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Quand il est découragé, Dieu lui rappelle que son droit est auprès du Seigneur. Et quelle est la mission qu'il lui donne ? Ramener Jacob vers lui. Tiens, il y a Israël, serviteur, et il y a Jacob. Vous trouverez cette dichotomie à travers tout le livre d'Ésaïe. Jacob, c'est Israël qui se rebelle contre Dieu. Vous vous souvenez, Jacob, c'est le trompeur, n'est-ce pas ? Il est réhabilité souvent, mais il retombe vite dans ses anciens penchants. Par contre, en même temps que Jacob est ramené, il ramène les préservés d'Israël avec les tribus de Jacob. Bon, souvent, les prophètes ont dit, un jour, un descendant de David va venir, il va réunir les tribus dispersées. D'accord ? Parce que les Israélites ont été envoyés très loin par les Assyriens, etc. Et le peuple qui a été divisé va être réuni. Ici, cette division, elle est entre ceux qui se sont éloignés de Dieu et ceux qui sont restés auprès de Dieu. Et le serviteur devient presque la partie d'Israël qui, fidèle, ramène le peuple tout entier. C'est bizarre, il est à la fois Israël et puis une partie d'Israël. Vous voyez, ça commence à devenir compliqué. De plus, lui-même sera lumière des nations. Oh ben, tu avais dit que c'était simple, Philippe. Ainsi parle le Seigneur, c'est la suite. Le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la personne est méprisée et que le monde regarde comme un être abject, à l'esclave des despotes. Des rois verront et se prosterneront par égard pour le Seigneur qui est fidèle, pour le Saint d'Israël, c'est celui qu'on a vu au chapitre 6, qui t'a choisi. Ainsi parle le Seigneur, au temps de la faveur, je t'ai répondu, au jour du salut, je te suis venu en aide. Je t'ai mis en réserve et destiné à être l'alliance des nations. L'alliance du peuple, pardon, en relevant le pays, en redonnant en partage les patrimoines désolés, en disant aux prisonniers sortez. Ils n'endureront ni faim ni soif, jamais ne les abattront ni la brûlure du sable ni celle du soleil, car celui qui est plein de tendresse pour eux les conduira, vers les nappes d'eau les mènera à se rafraîchir. Toutes les montagnes, je ferai un chemin et tous les chaussées seront pour moi surélevées. Et ils arrivent d'un peu partout. Ah, on apprend autre chose. Il y a un visage qui petit à petit prend forme. On est toujours dans le même cantique, le deuxième cantique. Et qu'est-ce qu'il dit au sujet de ce serviteur? Il est fidèle au sein d'Israël, Dieu qui l'a choisi. Il est à nouveau alliance du peuple, d'accord, et dans la même personne, si vous voulez, la même personnalité. Mais en plus de ça, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regardez le début, verset 7. Cette personne est méprisée et tout le monde regarde comme un être abject. Tiens, le serviteur de Dieu, donc la partie que Dieu considère comme son trésor le plus cher, le serviteur, l'Israël obéissant, il est quoi? Il est petit, il est esclave. Vous vous souvenez d'Israël en Égypte, n'est-ce pas? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils devaient faire des briques, c'est ça qu'ils étaient devenus. Et Dieu dit non, moi, je t'ai appelé mon fils, même chose arrivera ici. Ce que le monde entier regarde en disant « ça c'est rien », Dieu choisira ce petit rien et grâce à ce petit rien, ramènera l'alliance au peuple. Bon, voilà une pierre de plus à notre édifice. Mais c'est l'heure de la pause. Et donc nous ne pourrons pas voir... On va quand même faire ça. Je vais prendre la minute, mais ce n'est pas grave. Hein, vous me pardonnez par avance. Ah. Je voulais juste que vous notiez ceci. La façon de parler... de Dieu. Dieu dit, c'est trop peu, verset 6, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur. Alors, c'est une façon ironique de dire quelque chose que les Israélites connaissent bien. Parce que quand Dieu fait dire par le prophète Nathan à David, je t'ai choisi, en gros, je simplifie, le Messie viendra de ta famille, d'accord ? Il y aura un roi de la famille de David. Voici la réponse de David. Il dit « Qui suis-je, Seigneur ? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? C'était encore trop peu à tes yeux, Seigneur Dieu. » Tu as parlé aussi pour la maison de ton serviteur. Non seulement tu m'as montré ta grâce, c'était trop peu pour toi, ça. Donc tu l'as montré ma grâce à toute ma famille, à ma descendance. Hein, vous comprenez ? Ma descendance. D'accord ? Et là, Dieu dit à Israël, il retourne la parole de David, parce que Dieu peut faire ça. Et il dit, c'est trop peu pour que tu sois simplement serviteur d'Israël. Je veux que tu sois serviteur des nations aussi. Petit à petit, ce serviteur de Dieu prend de plus en plus d'importance et en même temps, on commence à voir qu'il est de plus en plus petit aux yeux des autres. Plus les hommes le voient petit, plus Dieu le dit, ça, c'est l'agent du salut que j'utiliserai non seulement pour Israël, mais pour les nations. Ça va? J'espère ne pas vous avoir perdu parce que j'ai fait des allers-retours. Je vous demande pardon. Et on commencera par le troisième chant. Je le laisse là si vous voulez le lire pour avoir de l'avance.